Non.
Ah non.
Non.
Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Ça n'a rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
Et bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la vendraine, on est les villes pour la vendraine.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette émission du 22 avril 2021. Nous sommes ensemble pour un Canu Info jusqu'à 20h avec Laurent. Nous allons vous parler ce soir de journalistes, de complications sportives, de Covid-19. Et oui, un petit peu, il faut bien. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est au programme. Nous parlerons de patrimoine, de ce que certains et certaines ont appelé un président. Nous parlerons des Ouïghours, de bonus avec des pépettes, et puis de protectionnisme pour finir. Mais nous commençons tout de suite avec toi, Laurent. Bonsoir à toi. Nous allons parler de journalistes.
Oui, on a appris aujourd'hui, ce jeudi 22 avril, qu'il y avait une information judiciaire qui était ouverte par le procureur de la République de Saint-Brieuc, donc c'est dans les Côtes d'Armor, à la suite du sabotage, on va l'appeler comme ça, fin mars, de la voiture de la journaliste Morgane Large. Donc je vais revenir sur ce qui s'est passé exactement. Donc cet acte de sabotage n'était en fait que le dernier d'une longue série d'intimidations, mais il montrait en fait qu'un seuil était franchi dans la malveillance. C'est ce qu'avait dit notamment Reporters sans frontières dans son communiqué du 13 avril dernier. L'association Reporters sans frontières avait d'ailleurs déposé plainte et demandé une protection policière pour la journaliste. Cette plainte détaillait les pressions dont la journaliste avait fait l'objet ces derniers mois. On va revenir dessus. C'était le 31 mars dernier. Cette journaliste qui était salariée depuis 20 ans à une radio associative qui s'appelle Kretz-Bretz, dont je vais l'appeler RKB, de ses initiales. Elle anime une émission qui s'appelle La Petite Lanterne, une émission quotidienne sur d'actualité et de reportage, et notamment pas mal axée sur des problématiques sociétales, environnementales et agricoles liées au territoire dans lequel elle habite, c'est-à-dire la Bretagne. Donc elle a découvert le 31 mars qu'il manquait deux roues, deux boulons à une des roues de sa voiture. Elle explique, moi j'ai roulé 4 jours à 110 km/h sur la voie express avec ma fille dans la voiture, sans le savoir. la roue aurait pu se détacher. C'était le but, hein, quelque part. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable d'essayer de faire ce genre de choses. Ce sabotage, on l'appellera comme ça, mais ça pourrait être qualifié autrement, hein, si on était plus virulent, hein, parce que le but, c'est quand même qu'elle ait un accident. Ça fait suite à de nombreuses pressions, on avait déjà parlé un petit peu, hein, et intimidations qu'elle a reçues, cette journaliste, notamment suite à la diffusion sur France 5 du reportage « Bretagne, une terre sacrifiée » qui avait été diffusé en fin d'année dernière. Alors on citera dans le désordre la tentative d'empoisonnement de son chien, les insultes diverses et variées sur les réseaux sociaux avec les coups de pression, les coups de téléphone la nuit à son domicile ou les diverses dégradations sur les portes des locaux de la radio RKB. Alors donc sa plainte avait été déposée le 13 avril, une plainte contre X, par Reporters sans frontières, qui dénonce les faits de, je cite, destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet de tout moyen de nature à créer un danger pour les personnes. Et le deuxième fait, c'est entrave concertée à la liberté d'expression. Morgane Large et RSF avaient aussi adressé une plainte par lettre commandée au procureur de la République de Saint-Brieuc afin qu'une enquête soit ouverte. C'est la décision d'aujourd'hui. Ça a mis un petit peu de temps, mais c'est ouvert aujourd'hui. Alors on a pu voir des réactions contre ou pour cette journaliste. Certains minimisaient son rôle en disant ben voilà, elle s'est pris pour une grande journaliste, elle est juste dans une petite radio associative. Alors elle a répondu intelligemment: je suis une petite journaliste d'une petite radio locale et de temps en temps j'enquête, mais j'ai la chance, contrairement à d'autres, d'avoir une profession protégée, des syndicats qui me soutiennent, l'aide de RSF et la loi de mon côté. D'autres lui reprochent d'être une militante. Alors ça, c'est assez drôle de la part de journalistes de reprocher à cette reprocher à cette journaliste d'être militante. Elle dit qu'elle l'est pas, mais c'est assez drôle quand on écoute la radio quand on regarde la télé. En fait, les journalistes sont souvent des militants, notamment les militants du libéralisme, du capitalisme, sauf que eux, c'est caché, pernicieux, malhonnête, hypocrite, vous prendrez les adjectifs que vous voulez. Elle le fait de manière plus franche, en fait. Et elle répond: on me taxe de militante, mais je fais mon travail correctement. Ni RKB, donc le nom de la radio, hein, ni moi n'avons jamais eu de procès en diffamation. Je fais intervenir le débat contradictoire dans chacune de mes émissions. Si des gens me disent il en a marre des écolos, elle les diffuse aussi. Donc ce qualificatif, d'après elle, est assez pernicieux, car il me semble que je peux être journaliste tout en défendant des valeurs de manière personnelle, comme lorsque j'étais élu. C'était pas illégal que je sache, puisqu'elle a été élue à un moment. Bien évidemment, tout est fait contre cette journaliste, trop proche des écolos et surtout trop lointain de l'industrie agroalimentaire qui détruit la Bretagne et qui, grosso modo, détruit pas mal la planète. On rappelle que l'État, et c'est pour ça que c'est plutôt une bonne nouvelle que la plainte, qu'il y ait une enquête, même si on n'y croit pas, ce qui est sur la suite, parce qu'on rappelle que l'État est à la manœuvre contre ce genre de discours écolo. On se rappelle de cette fameuse cellule Déméter au sein de la gendarmerie, donc une cellule montée par Christophe Castaner avec l'aide de la FNSEA, le principal syndicat agricole polluant, qui avait pour but de lutter contre ce qu'ils appellent l'agribashing. Alors pour eux, l'agribashing, c'est de combattre tous les gens qui dénoncent les pollutions, les malversations, tout ce qui est lié à ce capitalisme agricole, à cette industrie agroalimentaire qui répand des produits toxiques dans la nature, qui détruit la planète, etc. On rappelle, hein, que la Bretagne est la première région agricole française pour la production de lait, de cochons et de viande industrielle, et une des plus polluées en termes notamment de pollution dans les rivières, à cause non pas de l'industrie, mais bien de l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire des pratiques agricoles, de ces élevages monstrueux et néfastes. Mais heureusement, elle a du soutien. Il y a eu une manifestation le 6 avril dans le village de Rostrenen. Ils étaient quand même 850 pour la soutenir dans un petit village. Voilà. Alors, il n'y avait pas que elle. Il y avait aussi une journaliste allemande qui s'appelle Grommel, qui, elle aussi, a été mise à mal, donc par l'État, directement, quasiment, puisque elle s'est vue obligée d'effacer un enregistrement qu'elle avait fait par un agriculteur accompagné de deux gendarmes. Donc, les gendarmes qui nous s'en fout de respecter la loi de la liberté de la presse en France et qui lui avait demandé d'effacer son enregistrement. On sait très bien que cette gendarmerie, notamment dans ce genre de région, est clairement au service des agriculteurs. En fait, ils sont au service de l'État, et l'État étant au service de ces agriculteurs pollueurs que l'on connaît bien. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, cette ouverture de cette information judiciaire. Mais, je le répète, on a quand même peu d'espoir qu'il y ait une vraie enquête, que ça aille très loin, qu'ils arrivent à arrêter les responsables, parce qu'on connaît les liens de l'État et du monde agricole pollueur. On l'a vu, puisqu'il y a cette fameuse cellule d'émetteurs qui a été montée officiellement pour lutter contre les lanceurs d'alerte au niveau de l'écologie, pour soutenir l'agriculture qui détruit la planète.
Alors, on va parler de quelques complications sportives dont vous avez déjà pas mal entendu parler, mais nous allons y mettre notre sauce à cet ultra-ratage. Vous savez, il y a des... il paraît supporter ultra, ben là, on peut dire que c'est un ultra-ratage. Alors, c'est marrant parce qu'on a beaucoup entendu parler de cette Super League avec un E et un A après le L. Sinon, hein, ça fait League, c'est pas pareil. C'est ça l'internationalisation du football aussi. Hein,
oui, mais on parle de Ligue des Champions, voilà. C'est déjà anglophone depuis longtemps.
Alors, toi, tu m'as dit, de toute façon, tous les arguments que les gens annoncent contre cette Super League, on pourrait les retourner contre les compétitions existantes.
Et contre la FIFA et l'UEFA. Effectivement, qui sont là que pour gagner de l'argent quasiment.
Rappelons donc ce principe qui était amené par un duo, le patron du Real Madrid et le patron de la Juventus de Turin, qui ont une bien bonne idée, donc créer un nouveau rendez-vous sportivo capitaliste, quelque chose comme ça. On trouvait derrière les deux frères Glazer, qui sont les patrons de Manchester United,
United.
Oh, je dis comme je veux, tu vois.
Oui,
voilà. Ce sont les fils d'un milliardaire des États-Unis d'Amérique, Monsieur Edward Glazer. Donc, on voit quand même des gens qui sont plutôt du côté de l'industrie, hein, ce qu'on appelle, vous savez, dans les pages roses du Figaro, des capitaines d'industrie. C'est toujours mignon comme terme. Donc, l'idée, c'était d'avoir 12 clubs. Liverpool FC, Manchester United, je dirais comme je veux, Manchester City, Tottenham, Arsenal, Chelsea. On avait donc la Juventus, le Milan AC, l'Inter et puis le Real, donc l'Atlético et le Barça. Tout ça devait créer un nouveau rendez-vous avec tout plein de moyens de tu passes pas. Tout ça était évidemment
du business,
mis
quoi.
En place. L'idée évidemment, c'est de faire une nouvelle proposition et tout ça sportive, mais surtout financière pour les clubs, on va y revenir. Et puis bah, finalement, on a appris que tout ça, via un communiqué, était stoppé. Alors, d'après Monsieur Pérez, c'est pas stoppé, c'est mis en stand-by. Hein. Vous voyez, on va attendre de voir comment ça se passe, mais il faut dire que très rapidement, il y a eu des mobilisations. Alors, en France, on a vu dans la presse, les médias, une uniformité de, finalement, d'idées un peu sur la question. Mais c'est très très mal, cette Super League, c'est scandaleux, ça ne devrait pas exister. L'Élysée a même pondu un communiqué, quand même.
En fait, on se rend compte que l'entreprise monopolistique qu'est l'UEFA arrive à pousser tous ses amis, politiques, joueurs, à refuser la moindre concurrence. Alors, même si cette concurrence, elle était archi-capitaliste et pourrie, mais voilà, elle a manipulé tout le monde pour que tout le monde aille défendre son business à elle contre le business des autres, sans jamais remettre en cause son business à elle, bien évidemment. Et la corruption qu'on connaît dans ce milieu du foot, la publicité, enfin tous les trucs horribles hein, qu'on connaît dans le sport business, puisqu'on parle de sport business, hein. Alors, on ne parle pas de sport et de foot.
Alors justement, puisqu'on parle de business et que tu en parles, il faut savoir qu'il y a eu un double effet qui se coule. Ça fait du coup 4 effets qui se coulent, un truc dans le genre. Donc c'est que s'il y a des clubs qui sont en bourse, vous le savez, ce sont des entreprises hein, quand même, ouais. Qui sont comptées en bourse. Et on a, après l'annonce donc de cette... mise en attente, stand-by, peut-être pas tout de suite. Le cours de la Juventus a perdu 12% hein, dans la séance.
Je crois qu'ils étaient mal avant, en fait. Et quasiment tous ces clubs étaient en difficulté financière, en fait. Hein.
C'est la Juventus et Manchester. Par contre, quand ça a été annoncé, là, le cours s'est envolé, à l'inverse. C'est-à-dire que, voilà, ce sont aussi les entreprises qui sont liées, évidemment, à la bourse. Oui, les clubs ont perdu beaucoup d'argent, je te rejoins tout à fait, puisque ce sont des clubs qui amassent hein, quand même des millions d'euros. On parle en milliards pour certains club, dans l'idée de, comme ça, de pouvoir voir à long terme leur budget. Et bah, avec le Covid, oui, la perte d'un certain nombre, évidemment, de billetterie, ça a pu poser des dégâts. Mais c'est pas tant la billetterie qui aujourd'hui compte pour ces clubs, c'est bien la diffusion à la télé, donc des droits, ou sur les plateformes, puisque aujourd'hui on crée quand même aussi des rendez-vous, des matchs, pour que ça soit vu et diffusable en Chine, au Japon ou aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire que le match puisse être regardé par le plus grand nombre de gens qui sont donc des consommateurs et des consommatrices. Et c'est sur ça que comptaient, hein, évidemment, ces clubs, amener de l'argent, puisqu'on est quand même dans une logique qui ne cesse d'être exponentielle, hein. On n'est pas dans la décroissance, hein, loin de là dans le foot, puisqu'on a des clubs qui sont toujours les plus riches, qui donc vont faire venir des joueurs qui coûtent très cher, avec des salaires extrêmement importants, et donc il faut trouver bien du pognon, parce qu'encore une fois, la billetterie, il y a un moment, ça stoppe, hein, quand même. Il paraît que les gens dans les gradins des stades de foot sont plutôt dans, en dessous de la classe moyenne. Enfin, c'est pas des super riches, hein, vous voyez, en général, hein, le fanat de
foot. Il y a un peu de tout.
Il y a tout, mais...
Par principe, le foot, c'est vraiment très large.
Ça reste un sport.
Mais effectivement, ça reste plutôt populaire.
Voilà, ça reste plutôt populaire. C'est pas le seul.
Même si les prix ont pas mal monté et que, justement, les classes populaires sont en partie... petit à petit exclu, en fait, de participer à cette fête qui était au départ le foot.
Oui, alors j'irai pas jusqu'à là sur les vocabulaires sur la fête du foot et tout ça.
Moi,
tout
si,
ça.
Toi, tu vas.
Mais en tout cas, c'est vrai que tout le monde cherche de l'argent. Alors on a les sponsors sur les maillots, tout le monde connaît.
Les sponsors, avec il y a aucun problème de conscience. Hein, on peut être sponsorisé par un pays, une entreprise qui est dans un pays qui est une dictature. Ça, il y a aucun souci. Vraiment, il y a aucune conscience dans le sport. On fait pas de politique, du coup, on soutient même les pires.
Ben non, puisqu'on renomme des stades, hein, avec des noms de marques, hein, ce qui s'appelle le naming, qui est très très moche. Ligue 1 s'appelle Ligue 1 Uber Eats, excusez-moi, mais bon, voilà. La Ligue 2, c'est comme Domino's Pizza, enfin, je veux dire, bon. Donc l'argent, il est là, il faut le trouver. Donc on a des gens qui se sont dit, en fait, autant créer notre propre... coupe, surtout qu'il y a un gros problème par rapport à d'autres produits, hein. Le sport spectacle est un produit, en tout cas c'est un petit peu notre avis ici dans cette émission, ou carrément d'ailleurs, c'est que le consommateur ou la consommatrice, quand il y a un truc qui lui va pas, il peut aller ailleurs. Et puis le consommateur et la consommatrice, il peut être très volatile aussi. Mais dans le foot, t'es supporter, hein, tu vas pas changer tous les 4 mois de club, hein, je veux dire, souvent c'est à vie, ou à un moment t'es fâché, mais donc ce qui fait que t'es un petit peu captif quand même, et que donc on essaye de te fourguer tout un tas de trucs, c'est aussi une réalité. Donc la guerre a démarré évidemment en Angleterre, hein, pays footballistique il n'en est. On a vu des supporters se rassembler devant les stades. Boris Johnson a, comme notre Élysée à nous, déclaré que c'était quand même tout ça scandaleux, et qu'il a dit « Il pourrait sembler étrange qu'un conservateur partisan du libre-échange comme moi parle d'impliquer l'État et le gouvernement dans des sujets comme le sport et la compétition, blablabla. Le football est différent. »
Voilà.
Il est aussi important pour la culture britannique que les arts.
Voilà. Et comme il est différent, le football, on accepte les situations de monopole.
Alors, il y a des élections, hein, bientôt de l'autre côté de la Manche, donc ça fait qu'aussi on voit les politiques se positionner. En tout cas, l'idée de créer cette ligue, elle est défendue toujours par Florentino Pérez, hein, le patron du Real, qui s'est expliqué sur un média espagnol pour dire « L'attractivité du football baisse chez les jeunes et nous voulons leur proposer une compétition pour qu'ils délaissent leur tablette. Ils ne s'intéressent plus au football. Le numérique a tout changé. Ils ont d'autres plateformes pour se distraire. Le football doit évoluer et s'adapter à l'époque dans laquelle nous vivons. Avec de meilleures affiches, le foot sera valorisé. La Ligue des Champions est intéressante à partir des quarts de finale. Avant, on doit jouer contre des équipes modestes qui ne sont pas attractives. Il y a des matchs de piètre qualité. Un Barça-Manchester est plus attirant qu'un Manchester contre une équipe modeste.
Lui, il fait de la guerre des classes un peu. Il y a les clubs d'élite et les autres sous cette pourrie, quoi.
Donc, c'est cela qui rapportera de l'argent, pas les autres compétitions. Cet argent sera pour tout le monde. C'est une pyramide. Il a la main sur le cœur. Nous faisons cela pour sauver le football, puisque pour lui, si jamais on fait rien, en 2024, le football est mort, carrément. Alors, on y va. Donc, bon... Il y avait donc ces capitaines d'industrie qui montent ce projet, et c'était soutenu par JP Morgan, hein, vous savez, la banque.
Une petite banque, ouais.
Petite. Alors ça m'a fait rire parce qu'il y a des supporters anglais qui ont dit qu'il fallait, boycotter JP Morgan. J'aimerais bien savoir combien de supporters ont
un compte JP Morgan.
Bon, c'est un truc qui me fait rire, mais je
vous soutenons. Mais...
Hein, ouais. Évidemment, on les appelle à boycotter contre une banque.
Bizarrement, la Coupe du Monde qui va avoir lieu au Qatar avec des milliers de morts sur les chantiers, dans une situation complètement aberrante de faire une Coupe du Monde dans un pays désertique, ultra chaud, etc. Là, Boris Johnson, Macron, toute la bande, ils disent rien. C'est normal, en plus il y a de la corruption avec le Qatar. Non, là on voit rien. Par contre, quand ça vient de JP Morgan, tout ça c'est mal.
Alors, autre multinationale qui subit les foudres d'un peu tout le monde, hein, dont les supporters, c'est Amazon qui devait être choisi pour relayer cette Super League.
Ah oui, ils avaient déjà passé les contrats et tout.
Et alors, je ne sais pas où étaient les contrats, pour tout te dire, je ne suis pas dans les petits papiers, mais en tout cas, c'était Amazon et ESPN qui sont normalement... était prévu comme pour diffuseur de cette Super League. Alors Amazon a tout de suite dit qu'elle n'avait, la multinationale, été impliquée dans aucune discussion concernant le projet. Nous, on ne fait que diffuser. Donc là aussi, on appelle au boycott d'Amazon pour dire il ne faut pas aller là-bas dessus, parce que du coup, c'est des vilains. Mais en tout cas, voilà, ça fait rire parce que ça, c'est pas nouveau, cette affaire de créer une nouvelle coupe, un nouveau rendez-vous qui pourrait permettre au club de s'enrichir plus directement, de quitter la FIFA, l'UEFA d'une manière plus directe, qu'il y a eu des sanctions qui étaient aussi prévues, puisque si un joueur se retrouvait dans la Super League, il pourrait pas jouer dans son club, enfin dans son équipe nationale. Tout un truc était en train de se mettre en place, donc tout le monde est un peu coincé dans cette histoire, et l'UEFA est en train de nous faire une réforme de sa propre son propre championnat, et franchement ça a l'air très très compliqué et mal barré aussi, parce qu'il y a un certain nombre d'oppositions sur un schéma où je pense qu'il va falloir sortir le tableau banc pour comprendre comment ça va marcher. Mais voilà, il y a un certain nombre de critiques. Je continue sur du sport, sur cette grosse partie sportive, et je voudrais revenir sur les JO, parce qu'on en parle beaucoup moins quand même que cette affaire, et pourtant il y a toujours l'opposition. Il y a environ 35% des Japonais et Japonaises qui espèrent toujours voir annuler ces JO de 2020, qui vont donc se dérouler en 2021, parce que c'est les JO d'hier, mais c'est pour demain. Alors on a à peu près 100 jours, ça se passe pas très bien. On a appris que, par les organisateurs des JO de Tokyo, que qu'il y a une première infection au coronavirus lors du relais de la flamme olympique. Vous savez, la flamme olympique, c'est le machin qu'on trimballe.
Parce qu'ils ont une quatrième vague au Japon en ce moment, ça rigole moins.
Alors bon, on ne sait pas grand-chose sur cet homme qui est donc positif. Ça emmerde tout le monde, parce que normalement, il y a des super précautions qui sont prises. Et puis, c'est pas rien quand même, cette balade de la flamme. C'est 47 départements japonais, 10 000 coureurs. Vous savez, il y a des pros, très connus, et puis des amateurs au milieu de tout ça. Alors, il y a déjà des villes qui ont annoncé que ça pourrait pas se faire sur l'espace public, puisqu'il pourrait y avoir des spectateurs. Donc, Kyoto a annoncé que ça se passerait à l'intérieur du château Ninjo quand même. C'est un petit peu plus réducteur quand même, vu la taille de la chose. À Okinawa et Matsuyama, ça a été carrément annulé, le relais. Osaka, ça s'est tenu dans un endroit fermé sans public. Donc déjà, moi, je trouve que c'est vachement bien, des JO sans public. Je suis absolument pour, donc ça se passe pas bien. Quand même, la flamme, elle est partie le 25 mars dernier de Fukushima. Et depuis, tout va mal au Japon concernant ces JO. On en a déjà parlé.
En même temps, ici. Partir de Fukushima, c'était risqué quand même.
Et puis on attend.
Ils sont radioactifs, c'est peut-être pour
mais
ça.
Mais c'était censé être de l'ordre du symbole pour dire aux gens.
Oui, c'était l'inverse, c'était de la propagande. Voilà.
Si jamais tu veux bien y retourner, s'il te plaît, regarde, nous, on y a notre flamme qui est toute belle. Alors, il paraît que, d'après Seiko Hashimoto, la présidente du comité d'organisation, la situation liée au Covid-19 change constamment, tu m'étonnes. Et donc, ce qui devait être annoncé en mars, puis en avril, n'est toujours pas annoncé. Peut-être en juin, on saura enfin si jamais il y a du public ou pas dans les stades, puisqu'à la base, il devait y avoir peut-être 50% de public. Maintenant, ça pourrait être à huis clos, sans personne. On sait en tout cas qu'il y a des tests de dépistage par jour qui vont maintenant être imposés aux sportifs et aux sportives. Avant, c'était 4 par jour, donc déjà ils réduisent. Par contre, t'es pas obligé d'être vacciné quand t'es sportif pour participer aux JO. Alors, on a appris que la Corée du Nord ne viendrait pas aux JO 2020 de 2021 de Tokyo. Peut-être à cause de cette restriction sanitaire. Nous ne savons pas. En tout cas, tout ça, c'est quand même vraiment le bazar, puisqu'en plus de ça, il y a un certain nombre de rendez-vous qui servent de qualification aux JO qui sont annulés. Donc, il n'y a pas de, y a pas les sportifs et les sportifs, si vous voulez, qui sont pour ces compétitions prévues. Donc, ça pose déjà des problèmes. Il y a des épreuves tests qui ne peuvent pas se dérouler. Donc, c'est un merdier, mais alors total, total. Et puis, on a appris, pour finir, parce que c'était la bien bonne idée, que la règle numéro 50 de la charte olympique ne sera pas assouplie. C'est une règle qui prohibe toute manifestation ou propagande politique, religieuse ou raciale sur les sites olympiques. On se souvient tous hein, de ce point levé aux Jeux de Mexico en 1968. Et bien ça, c'est maintenant complètement interdit, c'est réaffirmé dans ces textes. Et donc sur les podiums de Tokyo et des Jeux d'hiver de Pékin, personne n'est censé faire une démonstration. Alors le CIO s'appuie sur une enquête auprès de 3547 sportifs et sportives qui ont jugé, a priori, pour les deux tiers, que ce n'était pas un lieu approprié pour manifester son point de vue et son mécontentement sur le podium. Il fallait faire ça en séance de presse. Alors, très sincèrement, pour Tokyo, bon. Mais par contre, pour Pékin, c'est plus embêtant parce qu'un certain nombre de sportifs et de sportives, d'athlètes, avaient prévu peut-être, entre autres, on va y revenir, de parler des Ouïghours en montant sur le podium ou en tiquant, d'avoir peut-être un patch ou un t-shirt ou quelque chose. Alors, ce qui est très très drôle, c'est qu'il est prévu pour ces prochains jeux, des petits tenues ou des petits patchs qui seront préparés. Je suis sûre que tu en voudras un, puisqu'il y aura un où il y aura écrit paix, l'autre solidarité et l'autre égalité. Comme ça, c'est des JO de l'amour sans public et qui peut-être ne vont jamais exister.
Ça va ?
Oui.
Alors, je vais parler un peu du Covid et de l'hôpital. On ne l'a jamais fait, quasiment pas fait dans cette émission, parce que comme on est surinformé sur ce domaine-là, jusqu'à maintenant, on avait décidé de ne pas en parler, mais là, je vais revenir dessus, puisqu'il y a eu quelques petites infos positives. Alors, vous êtes au courant que depuis des décennies, des mois, des années, des citoyens, des citoyennes, et surtout des soignants et des soignantes, dénoncent les plans de suppression massive de lits dans les hôpitaux publics, qui se poursuivent depuis des années, quelle que soit la couleur politique du gouvernement, et malgré la crise sanitaire que l'on connaît depuis un peu plus d'un an. On rappelle, à titre d'exemple, que 76 000 lits d'hospitalisation ont été supprimés en France entre 2003 et 2019 dans l'hôpital public. Ces vagues de suppression et de, je cite, restructuration, parce que c'est comme ça que ça s'appelle souvent, répondre à des choix politiques donc confirmés depuis une vingtaine d'années, on va dire, pour faire un petit peu court, par les différents gouvernements successifs. Le but, c'est de réduire au maximum les capacités d'hospitalisation, les lits, mais aussi ce qui va avec, c'est-à-dire les matériels nécessaires au fonctionnement et surtout les personnels pour une gestion assez classique dans le monde économique, dite du flux tendu. C'est ce qui est le but, de plus avoir, comme dans l'économie, on n'a plus de stock, parce que ça coûte cher de stocker du produit, on fabrique vraiment en flux tendu. Le but de ces politiques libérales à l'hôpital, c'est la même chose, on gère à flux tendu les patients. Le problème, c'est que les patients, c'est pas un aspirateur qu'on fabrique, c'est un peu plus compliqué que ça. Et surtout, idéologiquement, c'est quand même pas la même chose. Le but, c'est de réaliser des économies budgétaires, en même temps de privilégier les grosses structures hospitalières face aux petites, et quelque part d'ouvrir de plus en plus la santé au secteur privé, qui lui ouvre des lits en parallèle. Donc l'arrivée du Covid a révélé de manière un peu plus extrême la vulnérabilité de ce modèle libéral, qui était déjà au bord de l'effondrement avant la crise, mais alors avec la crise, ça a été catastrophique. Pourtant, ces plans d'économie de regroupement de structures se poursuivent malgré le Covid, malgré les pics épidémiques, malgré la surcharge des hôpitaux, malgré l'épuisement des soignants. De nouvelles fermetures de lits sont donc toujours en cours ou encore annoncées. Les soignants, les soignantes, les citoyens, les citoyennes, les comités de défense, même des élus, continuent de dénoncer ces plans de modernisation de l'offre de soins, la novlangue pour dire fermeture de lit, rationnement des soins. Alors, la bonne nouvelle, c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que ces mobilisations, quelquefois, fonctionnent. Quelques exemples. Au CHU de Nancy, le comité interministériel de performance et de modernisation de l'offre de soins. Alors ça s'appelle COPERMO. C'est le nom officiel, donc ce comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins. Grosso modo, c'est la réunion de Bercy, donc du ministère de l'économie, le ministère de la Santé, les agences régionales de santé et l'assurance maladie. Et le but de ce truc, c'est de supprimer des lits. Donc ils avaient prévu, au CHU de Nancy, de supprimer 174 lits et de supprimer 600 emplois, 600 postes d'ici 2024. Alors c'est donc dénoncé depuis des mois, il y a une mobilisation, notamment par le maire socialiste de la ville. Et en mars dernier, le ministère de la Santé et le ministre, donc Olivier Véran, a présenté un nouveau plan. Celui-ci prévoit le maintien de 300 postes et un peu moins de suppression, et la même capacité de lits. Alors c'est une demi-victoire, puisqu'ils vont quand même supprimer la moitié des emplois, alors qu'on sait que ça manque. Que les soignantes et les soignantes sont surchargées, mais ils suppriment plus les lits. Donc il y a un vrai recul. Selon les syndicats et le comité citoyen de défense de l'hôpital de Nancy, 81 lits ont quand même été fermés jusqu'au mois de mars. Donc c'est quand même des plans hypocrites. On dit oui, on dit non, on avance de manière fourbe, mais c'est quand même plutôt positif le fait d'avoir quand même maintenu pas mal de choses et beaucoup plus que ce qui était prévu au départ. Dans un courrier aux élus, le comité de défense du CHRU de Nancy demande maintenant l'annulation totale du plan de licenciement et de la suppression de ces 600 postes et de ces 174 lits. Ils ont gagné un petit peu, ils continuent la bataille pour aller jusqu'au bout, ils ont bien raison. Donc, réembauche totale du personnel, etc. etc. Donc voilà, ils avaient lancé une pétition, il y a eu 50 000 signatures, ils sont pas mal relayés, et c'est une demi-victoire, mais c'est déjà pas mal de faire des demi-victoires hein, dans les circonstances actuelles. On va parler de Reims maintenant, donc toujours ce même COPERMO, ce truc horrible, donc prévoyait la suppression de 184 lits au CHU d'ici 2027. En mai 2020, le maire LR de la ville s'y est opposé, et il y a quelques jours, donc le 14 avril très exactement, Emmanuel Macron, qui était en visite sur place, a annoncé que l'État engagerait 50 millions d'euros de plus pour le futur hôpital de Reims et a promis, c'est une promesse, hein, l'annulation des suppressions de lits dans le nouvel hôpital en construction. Donc voilà. À Nantes, c'est aussi l'occasion de la construction de nouvel hôpital, qu'on supprime des lits, en fait, qu'on rationalise, soi-disant, le fonctionnement. C'est la même chose au CHU de Bordeaux, qui est en cours de rénovation, où il y a 200 fermetures de lits qui étaient prévues donc, avant le Covid, sous prétexte de la construction du nouvel hôpital. Voilà, donc il y a eu... Et là, pour l'instant, pour ces cas que j'ai cités, la réflexion est plutôt de revenir en arrière. Donc c'est plutôt des victoires. Malheureusement, ailleurs, c'est plus compliqué. On pense à Villeneuve-sur-Yonne, c'est entre Sens et Nanterre. Le projet qui est annoncé en mars 2021 de fermer 80 lits dans cet hôpital continue d'exister, en espérant que ça change d'ici là. Bon, je ne vais pas les citer tous, mais voilà, la lutte continue. Il y a eu quelques victoires qui redonnent un peu du moral aux troupes, dirons-nous. Donc, il faut continuer de lutter. Et puis, je vais revenir sur un truc qui est en conséquence, en fait, quelque part, de la politique de Macron, de ces destructions de lits, entraîne qu'on a beaucoup moins de lits aujourd'hui dans les services, grosso modo dans tout l'hôpital, mais un peu moins aussi en réanimation. Et il y a un côté positif par rapport à la politique de Macron d'avoir moins de lits en réanimation, c'est que Macron a décidé de laisser circuler le virus. Il y a des pays qui ont des politiques zéro Covid, hein, on pense à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, et donc quasiment zéro mort hein, en conséquence, directement, forcément. Macron, lui, décide de laisser circuler le virus. Pour faire plaisir, entre autres, au patronat. Il faut voir ça. Et puis, pour je crois, parce qu'il a peur des réactions, notamment suite aux manifs des Gilets jaunes. Face à cette circulation du virus, sa jauge, qui permet de dire « Stop, maintenant je prends des mesures restrictives pour empêcher la circulation du virus », c'est le nombre de lits disponibles en réa. À savoir que, mécaniquement, hein, on a 20% à peu près des malades Covid qui rentrent en réa qui vont mourir. Entre 20 et 25%, dirons-nous. On a à peu près 10 000 lits Hein, ils essayent, la barre officielle c'est 6 000, mais ils peuvent monter jusqu'à 10 000. Ils essayent de ne pas dépasser les 6 000, on est quasiment passé à 7 000 il n'y a pas bien longtemps. Si on avait deux fois plus de lits, Macron aurait laissé circuler deux fois plus le virus et on aurait eu mécaniquement 20% de deux fois plus de lits, c'est-à-dire deux fois plus de morts. Donc dans notre intérêt à nous, finalement, cette gestion horrible de Macron de laisser circuler le virus pour des raisons économiques, on a de la chance d'avoir un peu moins de lits que prévu. Si l'Allemagne avait fait la même chose, ils auraient eu énormément de morts parce qu'ils ont beaucoup plus de lits, mais eux, ils ont préféré limiter le nombre de morts plutôt que de surcharger leur service de réanimation. Donc voilà, on en est aujourd'hui. Alors, la question qui se pose, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qui va se passer, notamment sur cet été ? Parce que là, ils ont annoncé tout à l'heure que tout allait bien, que dans 3 semaines, on va commencer à rouvrir les bars en terrasse, des choses comme ça. Alors, on se rappelle de la sortie du premier confinement, on était tombé à 6,14 cas positifs pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, on est à des chiffres beaucoup plus élevés, hein, sur la moyenne du territoire. C'est 340, mais dans des régions comme le Rhône, ici, on est beaucoup plus élevé. On va relâcher le système avec un niveau très haut de contamination. Alors, ils se servent de l'excuse, oui, on vaccine au maximum, sauf que la vaccination en France, elle est quand même ridiculement basse. Hein, on se rappelle que pour que la vaccination fonctionne un petit peu, il faut au moins 50% de la population vaccinée. On l'a vu avec l'exemple d'Israël. Mais si on veut que ça fonctionne bien, il faut 90% de la population vaccinée. Or, on en est très loin, on est à 15% de la population vaccinée. Donc, ce qu'est en train de nous préparer Macron, et c'est une prise de risque énorme, c'est de nous pourrir l'été. Parce que l'été dernier, on se rappelle, en sortant de ce confinement très dur, finalement, on est reparti quasiment pour une vie normale. Alors, vous ne me direz pas tout à fait. Il n'y avait pas de concert, il y avait, mais on pouvait aller au resto, on pouvait faire des fêtes, on pouvait sortir dehors. On est revenu à une vie agréable, ce qui a eu un impact important sur le moral. Parce qu'on a eu ces 2 mois d'été, pourtant en juillet ça avait commencé à remonter, mais on a eu ces 2 mois d'été où on s'est senti revivre. On a pu voyager un petit peu en France, on a pu faire des choses, aller dans des musées, voir des expos. Voilà, on a redonné ce que les gens appellent de la liberté, mais c'est pas de la liberté, c'est on a pu revivre, refaire des choses culturelles notamment, remanger, etc. Et ça a remonté le moral. Là, le risque avec la politique de gérer la circulation du virus en faisant semblant de la contrôler par rapport au nombre de personnes en réanimation, il y a toutes les chances. La grosse probabilité, c'est qu'en fait, on se retape une quatrième vague, fin juin, début juillet, parce qu'on aura commencé à se relâcher alors que le taux de circulation du virus, il est très fort et qu'on n'aura sûrement pas ou peut-être pas vacciné assez. Donc là, il y a un risque énorme de nous pourrir l'été avec sa politique de demi-mesure, de en même temps, là, le truc macronien, et qui finalement fonctionne pas. Alors dans le reste de la politique, hein, ça fonctionne pas parce qu'en même temps, de gauche et de droite, on est plutôt à droite, voire à l'extrême droite. Et sur la politique sanitaire, par rapport à des pays qui ont une politique stricte, on est ridicule. Donc voilà, je pense qu'il risque de nous pourrir l'été, on le maudira cet été.
Alors, ceux qui voient surtout d'un très mauvais œil peut-être certains processus, mais surtout qui se posent beaucoup de questions, c'est évidemment le secteur du tourisme qui, pour la deuxième année consécutive, risque de se manger quand même son été, puisque certes, on a pu l'année dernière bouger, c'était une grande avancée, oui. mais il y a quand même pour un certain nombre d'endroits en France une manne des touristes étrangers qui s'est perdue quelque part. Donc là, le risque pour l'été 2021, c'est que cela se reproduise. Donc on voit arriver aujourd'hui pour tous les pays touristiques du monde une espèce de course à savoir comment on va faire. Est-ce qu'on vaccine les populations qui vont être directement en contact avec les touristes? C'est ce qui se passe déjà dans un certain nombre de pays. Est-ce qu'on met en place des mesures plus restrictives tout de suite pour pouvoir demain ouvrir davantage? C'est à la réflexion qu'il y a pu y avoir par exemple avec le Portugal. Donc on voit qu'il y a une concurrence aussi très forte qui pèse sur les pays touristiques. Et que, très certainement, un certain nombre de gouvernements commencent à se poser la question, ou on finit de se poser la question pour d'autres, de comment est-ce que tout ça va pouvoir gérer, parce que là, il s'agit encore une fois d'une affaire économique, tout simplement, et pas simplement de liberté, bien évidemment, pour le gouvernement, c'est d'où va sortir l'argent pour l'été 2021. Alors je vais vous parler de toute autre chose maintenant. On va parler de patrimoine, on va aller en Afrique du Sud, puisqu'on a appris une mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on appelle la bibliothèque du Cap. C'est une bibliothèque universitaire qui est sur les flancs de Table Mountain, qui a brûlé le 18 avril dernier. Alors pourquoi c'est grave et bien plus grave qu'une cathédrale parisienne? C'est parce que à l'intérieur de cette bibliothèque universitaire se trouve la salle de lecture Jagger, qui est une salle universitaire extrêmement importante puisqu'elle recueille des ouvrages rares, indispensables sur l'Afrique. Alors, pour l'instant, il y a un inventaire qui est mené pour savoir exactement ce qui a brûlé, puisqu'il est possible que toute la partie avec les documents les plus précieux n'ait pas été complètement endommagée. Donc, il y a pour l'instant un travail de recherche. Déjà, il a fallu éteindre le feu, de stabiliser l'édifice et puis de voir effectivement ce qui a marché, puisqu'il faut savoir qu'à l'intérieur de cette salle de lecture, il y a des parois anti-feu automatiques. Il y a quand même un gros processus de sécurité qui était mis en place. Donc, on espère que ça a sauvé un certain nombre d'ouvrages. Alors, c'est une collection absolument unique au monde, d'autant plus en Afrique. 85 000 livres et pamphlets, 3500 films africains, des documents pré-coloniaux sur l'Afrique du Sud, des archives gouvernementales plus récentes et en particulier sur l'apartheid. Donc c'est des documents qui sont inestimables pour l'Afrique et c'est des propos qui sont rapportés par l'AFP et par le Figaro de plusieurs universitaires sur place. Tout le monde semble évoquer un savoir africain qui est inestimable, c'est perdu et ne pourra pas être remplacé, qui est extrêmement important puisque l'Europe en particulier a à un moment effacé cette culture et cette histoire africaine pour tenter de la remplacer par une histoire coloniale, a voulu nier le fait qu'il y ait une civilisation africaine extrêmement importante artistiquement par exemple, dans la littérature, dans le cinéma, et donc on a cette, non seulement cette manne, cette documentation qui pourrait être perdue, mais aussi une transmission, puisque pour beaucoup de ces universitaires qui sont cités, comme je vous le disais, par l'AFP ou par le Figaro, ça leur a permis de se rendre compte que l'Afrique, et l'Afrique du Sud en particulier, avait une histoire. Et par exemple, on a cette femme, June Ban Hutchinson, qui explique qu'elle, sous l'apartheid, elle avait dû faire des demandes pour pouvoir consulter des documents relatifs à l'histoire des Africains et des Africaines hors de l'apartheid, et que ça avait été compliqué. Donc il y a besoin de cette documentation pour l'histoire africaine, pour l'histoire de l'Afrique du Sud, pour les universitaires, mais pour tout le monde. Et donc c'est là où, effectivement, c'est une catastrophe, et comme je vous le disais, c'est une catastrophe, à mon sens, bien plus grave qu'un bâtiment religieux, certes, sur un patrimoine français, mais là, on a quand même toute une histoire et un patrimoine local qui a été nié pendant très longtemps, qui pourrait être perdu.
Alors, je vais reparler d'Idriss Déby, même si le Kenya Fodilla en a parlé, et de la succession notamment. On rappelle qu'Idriss Déby est mort, donc dictateur depuis une trentaine d'années. Ouais. On ne sait pas toutes les circonstances, ça a l'air un peu compliqué. Une balle perdue, vraisemblablement. Et la mise en place du d'un CMT, donc ça veut dire Conseil militaire de transition, avec une charte de la transition qui prévoit l'abrogation de la Constitution, direct, comme ça. Alors, c'était publié sur le site de la présidence, ça a été retiré tout de suite, mais des sources proches de ce CMT expliquent... oui, c'est prévu, mais c'était peut-être pas la bonne version, tout ça. Enfin bon, bref, c'est mal parti. Les partis d'opposition annoncent ou disent qu'il y a eu un coup d'État, en fait. Et c'est vrai, le mot de coup d'État est lâché. C'est relativement logique. Alors, c'est un coup d'État, je ne sais pas si c'est un coup d'État, c'est la continuation du précédent, dirons-nous, puisque on a le fils Mahamat Idriss Déby, général de 37 ans, donc fils du dictateur, et qui a dissous, qui c'est lui qui gouverne, et qui occupe toutes les fonctions. Il est président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, voilà, il fait tout. Hein, voilà. Donc on a un vrai dictateur qui prend la digne suite de son petit papa. Alors, l'objectif de l'opposition en ce moment, c'est d'essayer que l'histoire, d'éviter que l'histoire se répète. Jusqu'à maintenant, ils ont eu peu d'emprise hein, sur Idriss Déby, qui est tellement soutenu, notamment par la France, qu'ils ne sont jamais arrivés à le faire tomber. Il n'y a pas d'élection digne de ce nom, les opposants sont arrêtés, les partis n'ont pas le droit de s'exprimer, enfin, c'est compliqué. Donc là, c'est l'occasion ou jamais, en fait, quelque part, de faire une vraie transition démocratique. Sauf que c'est très compliqué. Il y a notamment le leader des transformateurs, c'est le nom du parti, qui se mobilisent. Ils sont même allés jusqu'à demander aux chefs traditionnels de s'exprimer sur la crise, qui disent bah, il faudrait qu'il y ait du dialogue. Tout le monde essaye voilà, de pousser pour qu'il se passe un truc positif. Donc, c'est pas gagné. Alors, bien évidemment, Mahamat... tout le monde rejette l'idée du coup d'État. Le parti du président, de l'ancien président et du nouveau, du coup, dictateur, on l'appelle président, mais c'est bien évidemment un dictateur, le MPS, il s'appelle Mahamat Zen Bada, lui dit non, il n'y a pas de coup d'État. Il explique, très sérieux, non, le président de l'Assemblée nationale, qui aurait dû prendre le pouvoir, en fait, il était malade, et pour des raisons de santé, il a préféré donner le pouvoir aux militaires. Donc on abrège une pseudo-démocratie, parce qu'on est un peu fatigué. Voilà. Bon, c'est juste de l'escroquerie, bien évidemment. Alors, les réactions sont pas nombreuses. Les États-Unis sont allés tranquillement. On voudrait une transition pacifique et démocratique. Bon, mais bien évidemment, ils mettent aucune pression. Voilà, ils font pas plus. Bon, la France est coincée, hein. C'est la France qui a aidé Idriss Déby à faire son coup d'État et qui l'a maintenu au pouvoir pendant 30 ans. Donc maintenant qu'ils ont le petit-fils, ils n'ont rien dit. D'ailleurs, Florence Parly, hein, la ministre de la guerre française, elle a dit « La France perd un allié essentiel dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. » Parce qu'on se sert de cette lutte. Parce qu'Idriss Déby a très bien su faire, hein, politiquement. Il est allié de la France. Mais dès que la France a monté quelque chose, que ce soit l'opération Serval, l'opération Barkhane, l'armée tchadienne était dedans pour montrer sa bonne volonté, pour avoir voilà, le retour derrière. Et donc aujourd'hui, Emmanuel Macron, Florence Parly, ils sont dans la continuation de cette France-Afrique qu'on pensait un jour disparaître, mais qui ne disparaît jamais. Ce soutien à ces dictateurs sanguinaires, ça continue. D'ailleurs, normalement, Emmanuel Macron se rendra demain aux obsèques de son ami dictateur. On souhaite aux opposants de profiter, c'est l'occasion ou jamais, mais c'est mal parti quand même.
Tu voulais me parler des Ouïghours, il me semble.
Ouais, un petit truc. Alors, pas tant sur la situation, mais deux petites infos et qui rappellent que beaucoup de gens manipulent les choses et que c'est pas forcément une bonne idée pour la lutte, pour aider les Ouïghours. Alors, je vais remonter au 12 avril dernier, quand Sherpa, le collectif éthique sur... ils étaient plusieurs, hein, Sherpa, le collectif éthique sur l'étiquette et l'Institut Ouïghour d'Europe, dont je vais reparler tout de suite, et une victime Ouïghour, ont déposé plainte auprès du tribunal judiciaire de Paris contre plusieurs multinationales de l'habillement, parce qu'ils font travailler... des Ouïghours indirectement ou directement. Il y a des grosses boîtes hein, dedans, il y a Zara, alors pas directement, il y a Inditex qui travaille pour Zara, il y a Uniqlo directement du coup, il y a SMCP qui travaille pour des grandes marques comme De Forsac ou des choses comme ça, et plein d'autres qui font travailler directement ou indirectement les Ouïghours, 20% du coton, hein, la région là-bas. Donc forcément, la région du Xinjiang, donc cette région autonome de Ouïghours qui s'y situait en Chine. Alors aujourd'hui, la news du jour, c'est que l'Institut Ouïghour d'Europe, donc qui est basé à Paris, a directement interpellé M. Emmanuel Macron, le président français, et Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie, on ne sait pas bien à quoi il sert, mais voilà, chef de la diplomatie, à reconnaître le caractère génocidaire des politiques de la Chine visant la minorité ouïghour du nord-ouest de l'Afrique. Il précise, je cite, et c'est là où on va discuter là-dessus, les violences politiques extrêmes et systématiques organisées, planifiées et perpétuées par les autorités chinoises contre les Ouïghours témoignent d'une intention de détruire, y compris biologiquement, les Ouïghours en tant que groupe à part entière. Elles sont constitutives d'un génocide selon les critères mis en avant dans la Convention pour la préservation et la préservation et la répression du crime de génocide de 1948, dont la Chine est un État signataire. Alors, bien évidemment, le régime communiste chinois utilise des mesures répressives, des mesures d'un État policier, discrimine, torture, emprisonne. Il y a des camps de travail. Mais c'est compliqué de dire que c'est un génocide. Il n'y a pas de camp d'extermination, en tout cas pour l'instant, c'est pas sûr. Et c'est pas acté, cette politique de vouloir assassiner tout un peuple. Il y a plutôt une politique de vouloir encadrer, gérer tout un peuple à la chinoise. Hein, on sait très bien.
De les forcer à intégrer le processus chinois. Voilà.
On sait. Alors, c'est pas la première fois. Les dictateurs chinois, ils ont instrumentalisé leur propre guerre contre le terrorisme, comme les Américains. D'ailleurs, ils étaient alliés de Washington sous le gouvernement Bush contre cette guerre mondiale contre le terrorisme. Bush, il faisait ça en Afghanistan, en Irak, et puis eux, ils servaient de cette excuse-là pour faire la même chose au Xinjiang. On rappelle qu'il y a eu quelques attentats en Chine par les Ouïghours, donc ils se servaient de la même excuse. Mais, et il y a un gros mais là-dedans, c'est qualifier ça de génocide, c'est risqué. Alors c'est risqué parce que cette définition elle est précise et qu'en fait, malgré leurs propos à cet institut Ouïghour d'Europe, on n'est pas tout à fait dedans. Et du coup, ces arguments qui sont justifiés de vouloir protéger les Ouïghours et de les aider, eh ben, ils sont balayés par les soutiens de la Chine qui disent, bah, regardez, vous mentez, puisque vos propos, ils ne sont pas les bons. Et c'est toujours le risque quand on n'utilise pas les bons mots, et notamment quand ces mots ils sont porteurs de quelque chose derrière. Et puis c'est risqué pour une deuxième raison, parce que cette notion de génocide, elle est elle-même instrumentalisée par les États-Unis d'Amérique dans leur bataille contre la Chine. Effectivement, Biden, là, il a repris le terme de génocide aussi. Mais c'est de la politique politicienne américaine. Et le réutiliser à son tour, bah, ça veut dire qu'on a le même discours que cette politique américaine. Et les Américains, ils en ont rien à foutre des Ouïghours, tout le monde le sait. Ils sont juste en bataille contre la Chine. Et du coup, tout le monde instrumentalise cette cause. Et finalement, ça desservira, il y a de grandes chances, la cause des Ouïghours. Parce que du coup, on instrumentalise tellement la cause des Ouïghours et qu'on laisse crever les opposants taïwanais ou les opposants à tous les endroits des îles de la Chine là, qui essayent d'avoir un processus démocratique. Voilà, donc tout est instrumentalisé et il faut faire attention. Et là, c'est vraiment un piège énorme de tomber dedans.
Allez, on va parler de protectionnisme avec une affaire dans le Capital qui me fait bien bien rire. J'aime bien quand les gens s'engueulent dans les entreprises. Alors, on va parler couteau précisément, et on va parler de couteau la gueule ou de couteau de la gueule. Et c'est bien là tout le centre du propos, ce fameux « de ». Alors, nous avons donc les couteliers de la gueule, donc c'est le nom de l'Aveyron, hein, qui ont décidé de demander la création de l'indication géographique couteau de la gueule, comme le permet la loi sur la consommation de 2014. Hein, puisque maintenant, la loi sur les indications géographiques profite aussi aux produits manufacturés. Mais c'est pas si simple. Alors, dans les produits, d'ailleurs, il y a la porcelaine de Limoges, par exemple. Vous voyez qu'il y a déjà sa petite indication.
En même temps, si tu achètes de la porcelaine de Limoges et qu'elle est fabriquée en Indre-et-Loire, ce serait compliqué.
Oui, mais sauf que, alors, qu'est-ce qui est visé, bien évidemment? C'est la production à bas prix, et en particulier, qui pourrait venir de Chine.
Oui, puisque les couteaux de la gueule qui sont fabriqués ailleurs, il y en a moult.
Alors, et c'est bien ça contre lequel veut se battre le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de la gueule, qui se sont réunis et qui ont déposé donc une demande en novembre 2020. Donc ça commence à dater. Il y a une enquête publique qui a été terminée fin mars, et donc on attend maintenant la réponse de l'Institut national de la protection industrielle, qui a 2 mois pour rendre sa décision. Alors il faut savoir que le cahier des charges prévoit que les lames et les manches des la gueule sont fabriqués et montés sur 24 communes du nord de l'Aveyron. C'est quand même extrêmement précis, bien évidemment une indication géographique, comme pour le vin. Mais ça pose quelques petits soucis, parce que ce couteau, la gueule, est produit ailleurs, et ça depuis plus d'un siècle, et où donc ça, à Thiers, capitale de la Couternerie.
Oui, c'est quand même
et
logique
alors,
aussi.
Du coup, l'association Couteau la gueule au Brac Auvergne a réuni aussi ses couteliers et veut elle aussi déposer une demande d'indication géographique couteau la gueule, et non plus couteau de la gueule, hein, attention, et oui, c'est pas pareil. Alors, ce qu'explique le président de cette association couteau la gueule au Brac Auvergne, c'est qu'ils ne veulent pas se faire déposséder. Le président Aubry-Verdier explique « Il y a plus de fabriques de la gueule à Thiers qu'à la gueule. Une trentaine d'entreprises et 250 personnes parmi les 1000 couteliers de Thiers produisent des la gueule finies ou en sous-traitance. » Alors du côté des couteliers de la gueule, hein, de la gueule, j'y arrivais, le syndicat des fabricants Aveyronnais explique que non, on n'est pas d'accord. Pourquoi est-ce que le couteau de le couteau la gueule fait à Thiers ne s'appelle pas le couteau de Thiers? Donc démerdez-vous avec votre ville, hein, vous voyez, avec votre dénomination. Donc c'est une guéguerre.
Des guéguerres régionalistes en fait. Hein.
Ah bah c'est du protectionnisme. C'est du protectionnisme. Donc ça m'a fait quand même bien marrer parce qu'on ne sait pas comment tout ça va se passer. Mais tout est affaire toujours de vocabulaire. Moi j'aimerais terminer cette émission, si tu le veux bien, avec cette affaire quand même de la BAC de Marseille.
La brigade anticriminalité.
La BAC. Alors moi je vous le dis, vaut mieux être baqueux face à la justice que vendeur de chichons. Autant vous le dire tout de suite.
On le savait déjà.
Oui, bah voilà, là on en est sûr, puisque les 18 policiers de cette BAC des quartiers nord de Marseille étaient poursuivis pour vol de drogue, de cigarettes et d'argent. Quand même, hein, c'est-à-dire qu'en fait, ils allaient voir le vendeur du chichon, ils l'interpellaient et a priori, ils lui volaient son matos. Vous voyez, hein, ça fait un peu du pognon comme ça, petit peu d'argent de poche. Alors, on a appris que la présidente du tribunal avait dit que le tribunal a pu constater d'importants et graves dysfonctionnements. Donc on se dit, waouh, ils ont dû prendre des peines.
Oui, enfin, quand t'es policier et que tu te mets à voler les voleurs, tu devrais prendre... pas des voleurs d'ailleurs, ils volaient des trafiquants. Tu devrais normalement prendre un peu plus que le citoyen lambda.
Alors, il y en a 7 qui ont été relaxés.
Hein, ah ouais, relaxés, tu veux dire.
Ouais, parce que là, il y en a 15 qui sont toujours en poste, hein, si tu veux. Donc voilà. Et puis, il y en a 11 qui ont pris de 2 mois à 1 an de prison avec sursis, parce que bon, c'est pas des vendeurs de chichons tout de même, hein, quand même. On va pas les mettre derrière les barreaux. De toute façon, je sais pas bien comment ça se passerait, des mecs des quartiers nord, derrière les barreaux. Alors, ce qui évidemment énervait un certain nombre de gens face à cette... injustice, on peut le dire comme ça, c'est que surtout à la sortie du tribunal, il y a eu des ovations de la part d'autres policiers qui ont même fait de fermer leur gueule parce que ça a eu le don de fâcher quelques personnes. Et ils étaient accompagnés du sénateur Stéphane Ravier du RN. Parce que oui, ça va bien ensemble.
Tu veux dire, l'extrême droite, elle soutient bien les flics corrompus. Les flics voleurs.
Ah, enfin, tout le monde s'est quand même scandalisé de cette affaire de la BAC Nord qui s'est quand même grattée sur le dos de personnes interpellées, entre autres, hein, puisque, bon, voilà. Tout ça pour avoir des peines quand même absolument misérables. Donc, on peut être baqueux, tranquillou. Alors, peut-être qu'après, effectivement, avec ta prison avec sursis, ta carrière, elle est un peu finie. Mais enfin, bon, tant que tu te fais pas choper, ça peut quand même durer, puisque c'était quand même 2012, hein, l'affaire. Mmh. Là, on est en 2021. Ils ont eu le temps de continuer leur petite carrière, l'air de rien. Et malgré les scandales, on a quand même du ripoux qui s'enrichit sans aucun complexe. Et on peut pas dire que la justice soit très sévère à l'encontre.
C'est normal, ils sont en bleu, c'est des flics.
Voilà.
Et puis comme Macron a viré à fond de droite, ce coup-ci c'est sûr, et qu'il veut mettre des flics partout, il peut pas en virer non plus. Tu vois, il peut pas les condamner trop facilement, sinon il va en perdre des flics. C'est sûrement pas les seuls à être malhonnêtes.
Non. En tout cas, vous pouvez demain, vendredi 23 avril 2021, vous rendre à partir de 10h30 devant le TNP. Il y aura des petits concerts. Et ensuite,
il y a Théo Charaf qui fait un petit concert.
Et puis, à partir de 11h30, il y aura une manifestation contre le retrait, enfin pour le retrait, excusez-moi, de la réforme de l'assurance chômage, donc contre la réforme de l'assurance chômage. Ça partira à 11h30 et ça rejoindra l'Opéra, c'est-à-dire les deux lieux occupés de la métropole lyonnaise. Et puis, vous pouvez aussi, samedi 24 avril, vous rendre à 15h, place Louis-Pré d'elle pour un rassemblement pour Moumia. Voilà, nouveau rassemblement, c'est peut-être pas bien le dernier, hein, là, comme ça, dans l'idée. Mais en tout cas, voilà, nouvel appel à soutenir Moumia Abou Jamal. Voilà, c'était les deux petites choses sur l'agenda que je souhaitais vous raconter ce soir. Nous, on va se quitter, il est 19h57 et 54 secondes, 55, 56, 57. Je vais plus vite que les secondes, vous avez vu. On va vous laisser et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Canu Info. Il y a des Canu Info qui existent tous les jours de la semaine, tant bien que mal. Et puis tout plein d'émissions qui existent très 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 bien et qui s'en sortent très 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 bien. Parce que c'est Radio Canu, c'est la plus rebelle des radios. On vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao.